Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors, toute autre chose. Maintenant, nous accueillons, comme chaque mois, la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonjour.
Bonjour Jacques Monin.
Alors, dites-nous, sur quoi souhaitez-vous nous interpeller aujourd'hui ?
Eh bien, le 12 janvier dernier, vous diffusiez une enquête sur la réforme des frais de mandat des parlementaires, en épinglant au passage une parlementaire qui doit rembourser aujourd'hui une partie de ses frais qu'elle avait indûment perçus. Trois jours plus tard, ici même, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, estimait que la cellule investigation de Radio France contribuait au dénigrement des parlementaires. Alors Jacques Monin, puisque le sujet a été posé, contribuez-vous au dénigrement des parlementaires ?
Bon, d'abord, c'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui, parce qu'évidemment, la première des choses qu'on a envie de faire, c'est de condamner ce qui s'est passé au domicile breton de Richard Ferrand, et puis d'affirmer haut et fort que cette condamnation ne souffre d'aucun bémol. Donc c'est plutôt un message de solidarité qu'on a envie de lui adresser en ce moment, et ça je tiens vraiment à l'affirmer de manière extrêmement claire. Et puis mon rôle n'est pas de polémiquer avec un homme politique, quel qu'il soit d'ailleurs. Maintenant j'entends, Emmanuel, votre question, et nous aussi on a des comptes à rendre, donc quel que soit le moment, je ne vais pas l'esquiver cette question. Alors pour faire simple, vous avez... D'un côté, une réforme des frais de mandat qui a été adoptée il y a un peu plus d'un an par les parlementaires. Et puis vous avez de l'autre un débat, le grand débat en ce moment, qui porte notamment sur justement le bon usage de l'argent public. Alors il nous a semblé qu'il était légitime que nous soumettions cette réforme à un examen critique, à ce qu'on pourrait appeler tout simplement une évaluation. Et en investiguant, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien que, un, il y avait des abus clairs avant 2017, pour preuve, il y a cette enquête qui a été ouverte et qui cible 15 parlementaires, et vous le releviez, on en a identifié effectivement un 16e. Et puis deux, on se rend compte qu'après la réforme, ces abus sont encore possibles, ne serait-ce que parce que la réforme prévoit que 600 euros par mois pour les députés ou 900 euros par mois pour les sénateurs peuvent toujours être utilisé en frais sans aucune justification. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui participe le plus au dénigrement des parlementaires ? Est-ce que c'est le fait d'exposer une situation ou est-ce que c'est la situation elle-même qui peut alimenter le sentiment qu'il y aurait des citoyens de différentes catégories, d'un côté des personnes comme vous peut-être, ceux qui nous écoutent, qui dans le cadre de leur travail, lorsqu'ils ont des frais, doivent justifier du moindre centime, et puis d'autres qui, eux, n'ont pas besoin de le faire. Des personnes qui, lorsqu'elles sont prises en faute dans l'utilisation de ces frais, sont sanctionnées. Et puis d'autres à qui on ne demanderait que de rembourser. Voilà les questions que notre enquête pose, ni plus ni moins. Alors, on peut ne pas vouloir le voir au motif que ce constat peut alimenter l'anti-parlementarisme et que ce n'est peut-être pas le moment de le faire. Maintenant, on peut se dire aussi, à contrario, qu'il peut y avoir au contraire, donc là, matière à réfléchir justement pour restaurer de cette confiance qui visiblement s'émousse. Mais là, ça n'est plus évidemment de mon ressort.
Donc, on l'aura bien compris, Jacques Monin, il n'y a pas là, dans votre travail d'investigation, de volonté de dénigrement à l'égard des parlementaires.
Il n'y a pas de volonté de dénigrement. Non, non seulement il n'y en a aucune, mais je rappelle quand même qu'au préalable, en préambule de cette enquête, nous avions clairement dit qu'il était hors de question pour nous d'affirmer que tous les parlementaires abusaient de leurs frais de mandat. Et je le répète clairement ici. En revanche, ce que nous pointions, encore une fois, c'est un système dont on peut se demander s'il est satisfaisant. Mais ça, ce sera à chacun d'en juger.
J'ajoute cette information dont il a été question cette semaine. Mediapart a fait l'objet d'une tentative de perquisition dans ses locaux. Alors Mediapart s'y est opposé au nom de la protection de ses sources. Tout comme Mediapart, vous abordez au cours de vos enquêtes des sujets sensibles. Est-ce que vous pourriez également faire l'objet de perquisitions ?
Absolument. Tout média peut faire l'objet de perquisitions. La presse n'est pas au-dessus des lois. Donc la police, les juges peuvent venir perquisitionner à l'intérieur d'un média. Ça s'est déjà passé, c'est extrêmement rare. Et si Mediapart a pu y échapper, entre guillemets, c'est parce que dans ce cas-là, c'était sous une enquête préliminaire. Or, sous enquête préliminaire, on a besoin de l'accord de la personne qui doit être perquisitionnée pour perquisitionner. Donc Mediapart a pu refuser cette perquisition. Si demain, dans le cadre cette fois-ci d'une information judiciaire, un juge débarquait à Radio France avec des policiers pour perquisitionner, dans les locaux de la direction de l'investigation, il pourrait tout à fait, et personne ne pourrait s'y opposer. Maintenant, Le problème de ce type de perquisition, c'est que si vous débarquez dans une rédaction, vous avez une cible, mais vous avez des filets dérivants. C'est-à-dire que vous allez emporter tout ce qu'il y a dans les locaux. Et dans tout ce qu'il y a dans les locaux, il y a tous les sujets sur lesquels on travaille. Pour vous donner un exemple tout bête, on a récemment fait des enquêtes sur l'éventuel financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. On a fait des enquêtes sur, là encore très récemment, les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite qui pourraient se retrouver impliquées dans la guerre au Yémen. On a fait une enquête sur les ciments Lafarge en Libye. Donc évidemment qu'on a des éléments sur ces dossiers-là. Si demain un juge vient pour essayer d'identifier qui, possiblement, a écouté une personne dans un endroit où elle n'aurait pas dû le faire, eh bien, elle va récupérer tous ces dossiers. Et donc, la protection de nos sources tombe. Or, sans protection de ces sources-là, il n'y a pas d'information. Et c'est là qu'il y a un souci. C'est qu'il y a une opposition entre, finalement, le droit, effectivement, à la justice de perquisitionner et les dégâts collatéraux que ça peut entraîner dans un cadre d'exercice d'une presse libre. Voilà, c'est ça la difficulté.
Alors, très concrètement, comment vous protégez vos sources ?
On en a parlé déjà plusieurs fois ici. Par exemple, en les anonymisant, c'est-à-dire on leur garantit une protection. Quand on a validé leur légitimité, on les anonymise dans nos enquêtes. Si je vous disais vraiment comment on protège nos sources, je vous dévoilerais des choses qui peuvent les mettre en danger. Donc ça, je ne peux pas le faire. En revanche, je peux vous dire, dans le cadre, on le sait, de projets collaboratifs internationaux, par exemple, on travaille beaucoup avec, effectivement, des outils qui sont des outils cryptés. Donc même en perquisitionnant chez nous, ce sont des outils qu'on ne pourrait pas décrypter, donc qu'on ne pourrait pas exploiter. Mais c'est compliqué parce que on est aujourd'hui, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand même dans une situation où les sources sont de plus en plus mises en difficulté. On a adopté récemment une loi sur le secret des affaires. On voit très bien les dégâts que ça commence à engendrer, puisque maintenant, toute personne qui est à l'intérieur d'une entreprise, si elle dévoile quoi que ce soit, elle est quasiment sûre d'être attaquée devant un tribunal dans le cadre, justement, de la violation de ce secret des affaires. Donc, on fragilise déjà toute une partie de nos sources. Si, en plus, demain, on devait légitimer l'usage, alors, un usage proportionné, pourquoi pas, mais un usage abusif des perquisitions dans les médias, ça poserait quand même de sérieux problèmes.
Pourquoi des sources vous parlent ?
Alors ça, c'est pour plusieurs raisons. Il y a deux types de sources. Vous avez des sources qui vous parlent parce qu'elles ont une conscience. Voilà. Et elles voient des choses qui heurtent leur conscience. Donc elles ont envie que les choses avancent, elles ont envie que ça sache, elles ont envie, comme on dit vulgairement, que ça sorte. Voilà. Vous avez d'autres sources qui ont moins de conscience et qui ont des comptes à régler. Il faut dire les choses. Et qui transmettre un certain nombre d'informations pour nuire à d'autres gens. C'est une réalité. Après, la question du journaliste, c'est pas de se poser la question de ce qu'il y a dans le cerveau de celui qui lui donne une information. C'est de se dire, est-ce que cette information, d'abord, est vraie ? Ensuite, est-ce qu'elle est d'intérêt public ? Et quelle que soit la motivation de la source, si ces deux conditions sont remplies, il travaille avec.
Merci Jacques Monin.